السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کل 23 مارچ ہے اور یہ دن
Demain sera le 23 mars, un jour commémoré au sein de la Jamaat Ahmadiyya comme la journée du Messie promis.
اس تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق
En ce jour, le Messie et le Mahdi a fait sa proclamation en accord aux prophéties faites par le saint prophète Mohammed Ce Messie et ce Mahdi devaient apparaître durant les derniers jours pour informer le monde à propos des véritables enseignements de l'islam et diffuser le message de l'islam. Ils devaient unir les musulmans, voire devaient unir tous les suivants de toutes les religions sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian a annoncé qu'il était ce Messie promis et ce Mahdi promis dont l'avènement avait été annoncé par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce jour du 23 mars, il a accepté le serment d'allégeance de ses disciples. Pour le serment d'aujourd'hui, je présenterai quelques dires du Messie promis d'Islam, des dires dans lesquels il évoque la nécessité de l'avènement du Messie promis d'Islam, la condition du monde ainsi que ses proclamations. Il y mentionne aussi plusieurs signes qui sont liés à son avènement. Dans un de ses couplets, le Messie promet l'Islam déclare « Le temps de l'avènement du Messie et de personne d'autre était venu. Si je n'étais pas venu, quelqu'un d'autre serait venu à ma place. » La situation de l'époque exigeait l'avènement de quelqu'un qui ramènerait à bon port le bateau de l'islam, ce bateau qui était à la dérive. Malheureusement, la majorité des oulémas qui attendaient naguère impatiemment l'arrivée d'un messie, eh bien, la majorité de ces oulémas se sont opposés au Messie premier l'Islam après ses proclamations. La majorité d'entre eux se sont opposés à lui et ils ont colporté des mensonges à propos du Messie premier l'Islam aux masses musulmanes et ils lui ont attribué des faussetés. Ils avaient tant enflammé les esprits des masses musulmanes contre le Messie Premier Islam et contre sa Jamaat qu'on a lancé des fatwas appelant au meurtre des Ahmadis. Jusqu'aujourd'hui, dans certains pays et dans certains lieux, on tue de manière barbare des Ahmadis. On en a laissé d'affreux exemples au nom de l'islam, autant d'actes inimaginables pour celui qui connaît l'islam véritablement. Ce sont autant d'actes qu'un véritable musulman n'osera commettre. En tout cas, le Messie Premier Islam a décrit cette situation ainsi que son avènement. Le Messie Premier Islam explique la nécessité de l'avènement du Messie Premier. Il évoque aussi le lien entre le Messie et l'époque. Il n'a pas annoncé que c'était lui qui devait venir. Il a tout simplement expliqué que l'époque exigeait l'avènement de quelqu'un. Il déclare, le Saint-Coran évoque clairement la similarité entre les califats de la dispensation d'Israël et de la dispensation d'Ismaël, tout comme il est dit dans ce verset, « Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati, la yastakhlifannahum fil ard, kama stakhlafa alladhina min qablihim. » Le Messie Premier Islam ajoute, le dernier calife de la dispensation israélite est apparu 14 siècles après Jésus. Il s'agissait de Jésus de Nazareth. De même, le Messie de cette Oumma devait apparaître au 14e siècle. D'ailleurs, les récipiendaires de visions divines, ces personnes qui avaient une relation très proche avec Dieu et qui voyaient des visions, eh bien, cela avait annoncé que ce siècle sera celui de l'apparition du Messie. Parmi eux se trouvait Hazrat Shah Waliullah Sahib. Les Ahl Hadith disent que tous les signes mineurs et une partie des signes majeurs du Messie se sont accomplis. Or, il se trompe à un certain point. Tous ces signes de l'avènement du Messie se sont accomplis et non pas une partie de ces signes. Le grand signe évoqué dans le recueil d'Al-Bukhari est que le Messie brisera la croix et tuera le porc. C'est-à-dire qu'au moment de l'avènement du Messie, le christianisme et l'adoration du Messie sera à son apogée. Ne sommes-nous pas en train de vivre cette époque? Depuis Adam jusqu'aujourd'hui, existe-t-il une autre époque au cours de laquelle les prêtres chrétiens ont tendu à l'islam? La dissension règne partout. Dans chaque famille musulmane, un ou deux individus sont tombés entre les mains des chrétiens. Ainsi, l'époque de l'avènement du promis est celui de l'apogée du culte de la croix. Elle ne connaîtra pas de suprématie plus grande. On s'attaque de manière impitoyable et sournoise à l'islam. L'on accuse le Messie Premier Islam d'être un arbre planté par les Britanniques. Cette dernière phrase démontre véritablement si le Messie Premier Islam a été planté par les Britanniques ou s'il a été suscité par Dieu pour défendre l'islam et pour prouver la supériorité de l'islam. Le Messie Premier Islam demande, existe-t-il un groupe d'adversaires qui n'est pas usé de paroles outrancières ou d'insultes à l'endroit du saint prophète Mohammed P.S.A.W. Si l'époque n'était pas celui du promis, eh bien, il viendra au plus tôt dans 100 ans, car il est le réformateur de l'époque. Ce Messie est le réformateur de l'époque et doit venir au début du siècle. Existe-t-il en l'islam d'autres forces à même de répondre aux assauts des prêtres pendant un siècle? Leur suprématie atteint son apogée et celui qui devait venir est venu. À présent, il tuera le Dajjal en usant de tous ses arguments. Selon les hadiths, le Messie détruira les fausses croyances et non les populations et les suivants de ces religions. Et ceci s'est accompli. C'est-à-dire, le Messie promis devait prouver la supériorité des enseignements de l'islam sur les autres religions grâce à des preuves et grâce à des arguments. Il devait se présenter pour prouver la prééminence de l'islam sur toutes les religions. D'ailleurs, des milliers de non-musulmans se joignent à la Jamaat Ahmadiyya tous les ans en raison des preuves et des arguments présentés par le Messie premier l'islam. Ensuite, le Messie premier l'islam a expliqué davantage la situation du monde ainsi que la nécessité du Messie premier l'islam. Il déclare, si le sol est stérile, eh bien la pluie ne lui servira à rien. Au contraire, cette eau sera nuisible au sol. Si la terre n'est pas bonne, si elle est stérile, si elle est dure, eh bien l'eau causera plus de dégâts. C'est pour cette raison que la lumière céleste est venue du ciel, éclairant ainsi les cœurs. Soyez prêts à l'accepter et à en profiter. C'est-à-dire préparer le sol de vos cœurs afin qu'elle ne ressemble pas à cette terre inculte qui ne profite pas de l'eau. Attention que vous ne sombrez dans les ténèbres en dépit de la présence de la lumière et que vous ne trébuchiez pour finir au fond d'un puits obscur. Attention qu'en dépit de la présence de cette lumière, vous ne sombriez dans les ténèbres et que vous ne finissiez au fond d'un puits obscur. Le Messie promet l'Islam explique Allah l'exalté est plus bienveillant qu'une mère. Il ne souhaite pas que sa création parte à la perdition. Il vous ouvre les voies de la direction et de la lumière. Or, usez de votre perspicacité et purifiez vos âmes afin de les parcourir. L'on ensemence une terre après l'avoir labourée. De même, sans se purifier l'âme au prix de grands efforts et au prix de dur labeur, l'on ne recevra pas du ciel l'esprit purifié. Dieu a conféré en cette époque de grandes grâces en faisant montre de son sens de l'honneur pour sa religion et en faveur du saint prophète Mohammed, il a suscité parmi vous un homme qui vous invite vers cette lumière. Si les troubles et la corruption ne sévissaient pas, si l'on n'avait pas entrepris tant d'efforts pour effacer la religion, cela n'aurait pas fait de différence. Or, l'on tente de toutes parts de détruire l'islam. De partout, l'on s'attaque à l'islam. Toutes les nations se sont liguées pour cette cause. Toutes les nations se soucient de la destruction de l'islam et cela perdure jusqu'aujourd'hui. On tente de le détruire par un moyen ou par un autre. Le Messie premier l'Islam ajoute, d'après mon souvenir, évoqué dans mon livre « Brahini Ahmadiyya », 60 millions de livres et d'écrits ont été publiés contre l'islam. Cela date de l'époque du Messie premier l'Islam, soit 125 ans ou 150 ans de cela. Le Messie premier l'Islam ajoute, « Il est fort étrange de constater que l'Inde compte 60 millions de musulmans et autant de livres ont été publiés contre l'islam. » À l'époque, il y avait environ 60 millions de musulmans et aujourd'hui, ils sont environ 500 ou 600 millions, voire plus. Le Messie promet l'Islam, déclare, même si l'on ne compte pas le nombre supplémentaire de livres publiés, cela signifie quand même que nos adversaires ont offert un livre contre l'islam à chaque musulman. Autant de livres ont été publiés qu'il existe de musulmans. Et aujourd'hui, par différents moyens, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet et autres, cette tâche a pris plus d'ampleur. On a adopté de nouvelles méthodes. Le Messie, promis les salam, ajoute « Chaque adversaire a offert un livre entre les mains de chaque musulman en Inde. » Sans le sens de l'honneur de Dieu et sans sa promesse de protéger le Coran, eh bien, l'islam aurait disparu depuis belle lurette. Son nom aurait complètement disparu depuis longtemps. Or, il n'en sera pas ainsi. La main cachée de Dieu est en train de le protéger. Je suis fort triste de constater que d'aucuns se disant musulmans ne se soucient pas de l'islam autant qu'ils se soucieraient de leur mariage. Le Messie promet l'islam ajoute « J'ai souvent lu que les chrétiennes lèguent au moment de leur décès des sommes importantes pour la diffusion du christianisme. À l'époque, les chrétiens, voire les chrétiennes, consentaient à des sacrifices pour soutenir leur religion. » Le Messie promet l'islam déclare « Nous constatons au quotidien leurs efforts pour diffuser la cause chrétienne. » Le Messie promet l'islam explique qu'à l'époque, des milliers de chrétiennes occidentales prêchent la cause chrétienne. Elles partent dans les maisons et partent partout dans les rues pour prêcher le message du christianisme et elles font tout pour saper la foi des musulmans. Or, je n'ai pas vu un seul musulman ayant légué ne serait-ce que 50 roupies pour diffuser le message de l'islam. Ils font certes des dépenses faramineuses lors des mariages ou lors d'autres coutumes mondaines. Cela perdure aujourd'hui. D'ailleurs, il n'existe aucune comparaison entre les prétendues dépenses faites pour la foi et celles pour les causes mondaines. Le Messie promet l'islam ajoute « Ces musulmans sont prêts à s'endetter pour faire des dépenses inutiles à foison. Or, ils n'offrent pas un seul sou pour la cause de l'islam. » L'état des musulmans est des plus déplorables. Aujourd'hui, la situation de la majorité des musulmans est ainsi, quoiqu'il y a des améliorations dans certains lieux. Mais comme je l'ai dit, ils n'offrent pas un millionième pour la cause religieuse ce qu'ils dépensent pour assouvir leurs désirs. Le Messie promet l'islam décrivait l'état des musulmans à l'époque où il avait fait ses déclarations. Certes, une partie des musulmans se sont tournés vers l'islam, mais ils se limitent à maintenir vivant la pratique de l'islam. Dans une certaine mesure, ils pratiquent l'islam, ils veulent pratiquer l'islam et ils remplissent leur mosquée de fidèles, mais ils ne font rien pour diffuser le message de l'islam. Les prétendus efforts qu'ils font se limitent à des actes extrémistes et à diffuser le message de l'islam par la force. Divers groupes ont été formés à cet effet, où ils se liguent contre la Jama'a du Messie promet l'islam. Aujourd'hui, sachez-le, l'islam se répandra par l'entremise de celui qui a été suscité par Dieu. Tel est le décret d'Allah. Allah et son envoyé ont aussi mentionné des signes concernant le Messie promis. Il ne s'annoncera pas sans se présenter. Le Messie promis, l'Islam, Hazrat Mizarullah Mahmad, affirme à cet égard, un des signes du promis sont les éclipses du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan. Ceux qui se moquent des signes d'Allah se moquent en fait de la personne même de Dieu. L'apparition de ces éclipses après s'être annoncé Mahdi n'est pas un signe susceptible d'être forgé de toutes pièces. Cet événement n'était pas fortuit. Ce n'était pas une leurre ou ce n'était pas un événement monté de toutes pièces. Il n'y a pas eu pareille éclipse dans le passé. Ce fut un signe grâce auquel Allah, l'exalté, invite le monde entier. Les Arabes, ayant vu ce signe, ont témoigné de sa véridicité. Ces éclipses ont invité vers le promis les habitants de ces contrées qui n'avaient pas reçu mes écrits. Ceci est un signe divin, un signe exemple de toute machination humaine. Tout philosophe, après mûre réflexion, conclura que les signes ayant apparu, le prétendant de ce signe doit certainement être présent. Ce n'est pas un signe prévisible par des calculs. Il est dit que ce signe apparaîtra après que le Mahdi et le Messie se sera annoncé. Le saint prophète Mohammed a aussi déclaré qu'il n'y aura pas d'événement similaire depuis la création d'Adam jusqu'à l'avènement de ce Mahdi. Je suis prêt à accepter le contraire si quelqu'un me le prouve en citant l'histoire. Le Messie promène Islam ajoute que l'étoile Zou-Sinine fait aussi partie de ces signes. Il s'agit de ces étoiles ayant apparu durant les années passées. L'étoile apparue durant les jours où les années du Messie de Nazareth est apparue de nouveau. Du ciel, elle annonçait aux Juifs l'avènement du Messie. D'ailleurs, le Saint-Coran annonce aussi « Wa idhal isharu utlilat, wa idhal wuhushu hushirat, wa idhal biharu sujirat, wa idhal nufusu zuwijat, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Il s'agit là de prophéties faites par le Saint-Coran. Ces versets annoncent que les animaux sauvages seront réunis. Cela a plusieurs interprétations. Cela signifie notamment la création de zoos. Ensuite, l'éducation sera à la portée de tous. Cette prophétie signifie aussi que les autochtones seront anéantis par diverses nations. Les mers aussi seront réunies, ainsi que les différentes nations. Il existe aujourd'hui des moyens de communication fort commodes. L'on peut contacter n'importe où, n'importe qui, en une seconde. Et l'on remettra en question les injustices commises contre les femmes à l'époque ainsi que la privation de leurs droits. La femme lésée demandera quel crime a-t-elle commis pour mériter la mort. Des écrits seront diffusés. Il s'agit là de la presse et des médias. Tout cela prouve que nous vivons à l'époque du Messie premier l'Islam. Il existe des prophéties à cet égard dans le Saint-Coran. Le Messie promet l'Islam ajoute, « Les chameaux seront abandonnés. À l'époque du Messie, les modes de transport anciens seront remplacés par des modes de transport efficaces. » Cette prophétie évoque l'avènement du chemin de fer. En accord à cette prophétie, aujourd'hui, un chemin de fer est opérationnel entre Médine et la Mecque. Le Messie promet l'Islam explique que d'aucuns croyaient que ces versets s'appliquent au jour du jugement dernier. Comment les chamelles pourront-elles maintenir leur grossesse le jour d'Al-Qiyam? Ishar signifie en effet des chamelles enceintes. Ces versets annoncent aussi que les rivières couleront de toutes parts et que des livres seront diffusés partout. Tous ces signes s'appliquent à cette époque. Le Messie promet l'Islam présente d'autres arguments après avoir soulevé la question du lieu de l'avènement du Messie. Il explique « Sachez que le Dajjal doit apparaître à l'est, c'est-à-dire dans notre pays. » L'auteur de l'ouvrage Hujjatul Kirama écrit que les troubles de l'Antéchrist apparaîtront en Inde. Évidemment, le Messie doit venir là où sera suscité le Dajjal, et le nom de son village sera Qada, une abréviation de Qadian. Probablement, il existe au Yémen un village de ce nom. Il se peut qu'il y ait au Yémen un village de son nom. Mais sachez que le Yémen se trouve au sud du Hijaz et non pas à l'est. D'ailleurs, il se trouve une indication subtile voulue par le décret divin dans mon nom. Mon nom, Ghulam Ahmad Qadiani, selon le décompte Abjad, donne le chiffre 1300. Selon le décompte, dit Abjad, le nom Ghulam Ahmad Qadiani donne le chiffre 1300. C'est-à-dire qu'un imam portant ce nom apparaîtra au cours du XIVe siècle. Et c'est ce qu'a voulu indiquer le saint prophète Mohammed Bissos à lui. Le Messie Premier Islam explique que les différentes calamités frappant ce monde font aussi partie de ces signes. Les calamités célestes ont frappé sous forme de la famine, de la peste et du choléra. La peste était ce châtiment dangereux qui avait ébranlé le gouvernement. En effet, la peste avait causé de grands dégâts durant 5 ou 6 ans. Et si elle avait pris de l'ampleur, eh bien, elle aurait détruit le pays tout entier en raison de sa virulence. Parmi les calamités terrestres se trouvent les guerres et les tremblements de terre qui ont détruit des pays tout entiers. Ces guerres perdurent jusqu'aujourd'hui. L'envoyé divin devrait aussi prouver sa véridicité par des signes célestes. Parmi ceux se trouve le signe de l'Ikram. Il s'agit d'un duel qui avait duré plusieurs années. Durant 5 ans, les adversaires se sont affrontés à coups d'annonces et j'avais annoncé partout qu'il s'agissait d'une lutte contre l'Ikram. On a très peu d'exemples d'une publicité d'une si grande envergure que celle de ce duel entre moi et l'Ikram. La prophétie ne s'est-elle pas accomplie telle qu'elle? Existe-t-il d'exemples similaires? Demande le Messie Prophète Islam. Plusieurs jours avant la tenue de la grande conférence sur les religions, j'avais annoncé qu'Allah m'avait révélé que mon discours primera. Ceux qui avaient participé à cette grande conférence peuvent réfléchir à ce propos. Était-il possible de prédire ou de déduire à l'avance la victoire lors de pareilles rencontres? La prophétie qu'il avait faite au sujet de son ouvrage « La philosophie des enseignements de l'islam » s'est accomplie. Je vous présente à cet effet un extrait tiré d'un journal de l'époque nommé General Gohar Asifi de Calcutta. L'article dit « Il est certain que si l'exposé de Mirza Saheb n'a pas été présenté, eh bien les musulmans auraient été déshonorés par rapport aux autres religions. Sans l'intervention divine, la religion de l'islam n'aurait pas eu le dessus. » Et grâce à l'exposé de Mirza Saheb, la gloire de l'islam a été établie. Amis et adversaires ont reconnu d'une seule voix la supériorité de son exposé sur les autres. Il s'agit là d'une déclaration d'un journal non-Ahmadi en citant d'autres non-Ahmadi. D'innombrables journaux ont écrit la même chose. Le Messie Premier Islam déclare « Les témoignages prouvant que je suis un envoyé divin abondent. Premièrement, il y a les signes internes. Deuxièmement, il y a les signes externes. Troisièmement, il y a les hadiths authentiques sur l'arrivée d'un réformateur au début du siècle. Quatrièmement, il y a la prophétie du Saint-Coran. Certainement, nous avons révélé le Coran et certainement, nous en serons le protecteur. Cinquièmement, il y a le grand témoignage concernant le califat évoqué dans la sourate Nour. Allah déclare dans cette sourate que j'ai mentionnée auparavant, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Selon cette promesse de succession, les califes apparaissant au sein de l'Umma du saint prophète de lui ressembleront au premier calife. De même, le Coran affirme que le saint prophète ressemble à Moïse. Il est dit Inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula. Le saint prophète paix soit sur lui ressemble à Moïse en accord à la prophétie biblique faite dans Deutéronome. Le terme kama utilisé dans ce verset précité et aussi mentionné dans la sourate An-Nur. Cela démontre qu'il existe une parfaite ressemblance entre la dispensation de Moïse et la dispensation du Saint-Prophète. Jésus était le dernier calife de la dispensation de Moïse, et d'ailleurs, il est apparu 14 siècles après Moïse. Cette ressemblance exige au moins qu'un calife apparaisse au cours du XIVe siècle et qu'il ressemble au Messie dans ses pensées et dans ses actes. Même si Allah n'avait pas présenté d'autres témoignages de soutien, eh bien, cette chaîne de ressemblance exigera tout au moins qu'apparaisse le reflet de Jésus au sein de l'Umma du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sinon, cette ressemblance sera imparfaite et sera faible, qu'Allah nous en préserve. Or, Allah a certifié cette ressemblance et Allah l'a soutenue. Voir, il a prouvé que le sosie de Moïse est en fait supérieur à Moïse et à tous les autres prophètes. C'est-à-dire que le saint prophète, paix soit sur lui, est supérieur à tous les autres prophètes. Jésus, le Messie, n'a pas apporté de nouvelle charia. Il était venu parachever la Torah. De même, le Messie de la dispensation de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas apporté de nouvelle charia. Il est venu augurer la renaissance du Coran. Il est venu diffuser son message et il est venu parachever la transmission de sa direction. Le Messie premier Islam explique davantage que l'avènement du saint prophète, paix soit sur lui, a réalisé le parachèvement des faveurs. Et son avènement a parachevé la perfection de la religion. Et cette perfection s'est accomplie de deux manières. Premièrement, grâce à la perfection de la direction, et deuxièmement, grâce au parachèvement de la diffusion de cette direction. Le premier avènement du saint prophète a effectué le perfectionnement de la direction et son deuxième avènement a parachevé la diffusion de cette direction. La diffusion du message devait s'accomplir à cette époque lors de son deuxième avènement. Le verset « Wa'akharina minhum » de la sourate Jumma mentionne l'émergence d'une autre nation grâce aux faveurs du saint prophète, paix soit sur lui, et son enseignement. Il est évident qu'il s'agit ici de son deuxième avènement sous une forme spirituelle. Ceci est en cours et cette époque est celui du parachèvement de la diffusion de la direction. C'est pour cette raison que nous voyons en place l'existence des moyens pour la diffusion. Les imprimeries foisonnent et tous les jours, il y a de nouvelles inventions à cet égard. Il y a la poste, il y a le télégraphe, il y a le chemin de fer. Il y a aussi ces paquebots, ainsi que la diffusion des journaux. Toutes ces inventions ont transformé le monde en une ville. Ces progrès sont en fait les progrès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, car ces progrès favorisent la diffusion complète de sa direction. Le Messie premier Islam ajoute, le perspicace peut réfléchir et se demander s'il peut rejeter superficiellement ces faits que j'ai présentés ou s'il doit réfléchir sur mes déclarations. Est-ce que je les ai faites au début du siècle ou pas? Si je n'étais pas venu, il incombait à toute personne douée de perspicacité et craignant Dieu de chercher l'envoyé divin. Car on se trouve au début du siècle et l'on doit s'en inquiéter davantage étant donné que 20 ans se sont écoulés depuis le début du nouveau siècle. Les troubles régnants quémandent à tue-tête l'avènement d'un réformateur. Le christianisme a favorisé une liberté, une licence outrancière, et ceci a affecté les enfants musulmans tant et si bien que l'on doit admettre qu'ils ne sont plus des enfants musulmans. Le Messie premier Islam nous explique aussi le moyen pour découvrir la vérité. Il conseille ceci. Si vous souhaitez saisir la vérité, eh bien faites des supplications dans vos solats pour que Dieu manifeste la vérité. Et je suis sûr que si une personne se purifie de ses préjugés et de son entêtement et se tourne vers Dieu l'exalté pour obtenir la vérité, cette vérité se manifestera en moins de 40 jours. Très peu de gens souhaitent obtenir un tel verdict de la part de Dieu en respectant ces conditions. Et c'est pour cette raison que dû à leur manque de discernement et en raison de la préjugé ou de la bigoterie, ils rejettent l'envoyé de Dieu et ils perdent la foi. Si l'on ne croit pas dans le wali, cela signifie nier le prophétat. Et ainsi, on rejette Dieu quand on rejette le wali. Et en fin de compte, on perd la foi complètement. Après avoir présenté ces quelques écrits du Messie promis d'Islam, je vous présente quelques récits rapportés à son sujet par Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il déclare que la Jamaat progresse lorsque l'opposition prend de l'ampleur. Lorsque l'opposition prend de l'ampleur, le soutien miraculeux de Dieu s'accroît aussi. Lorsqu'un Ahmadi informait le Messie promis d'Islam qu'il y avait une forte opposition dans sa région, eh bien, le Messie promis d'Islam répondait que c'était là un signe de leur progrès. Ainsi, là où il y a de l'opposition, la Jamaat progresse, car nombre de personnes qui ne connaissaient pas la Jamaat entendent parler d'elle grâce à cette hostilité. Ainsi, petit à petit, ils sont intéressés par les ouvrages de la Jamaat. Et lorsqu'ils lisent les ouvrages de la Jamaat, eh bien, la vérité conquiert leur cœur. Un jour, quelqu'un prêta allégeance au Messie promis d'Islam. Après la Bayra, le Messie promis d'Islam a demandé à cet invité qui lui avait prêché le message de l'Ahmadiyya. Le visiteur répondit spontanément que c'était Maulvi Sanaullah, un farouche détracteur du Messie Premier Islam, qui lui avait prêché le message de l'Ahmadiyya. Le Messie Premier Islam lui a demandé comment cela. L'invité a déclaré que je lisais les journaux et les écrits de Maulvi Sanaullah, et j'ai constaté qu'il était fort hostile à l'égard de la Jamaat Ahmadiyya. Un jour, j'ai décidé de lire les ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya. Et c'est ainsi que j'ai découvert la vérité et j'étais prêt pour le serment d'allégeance. Ainsi, le premier avantage de l'opposition est le progrès de la communauté divine. Cette opposition guide de nombreuses personnes dans la bonne direction, dit le Muslim Maoud. Le Muslim Maoud explique aussi, en citant le cas du Messie promis d'Islam, comment les prophètes réagissent face à l'hostilité. Il a cité en premier lieu l'État égyptien, qui était fort puissant à son époque. Pharaon, le chef de l'État égyptien, était fort orgueilleux de sa puissance. Moïse n'avait aucune importance face à la puissance de Pharaon. Mais en dépit du fait que Moïse ne faisait pas le poids devant Pharaon, Moïse est parti voir Pharaon et Pharaon l'a menacé, l'a effrayé, en disant qu'il allait détruire son peuple et qu'il allait même détruire Moïse s'il ne cessait pas ses campagnes. Mais Moïse n'a pas cessé ses campagnes. Il a répondu à Pharaon qu'il transmettrait coûte que coûte le message que Dieu lui a demandé de transmettre au monde. Aucune force au monde ne pourra m'empêcher de transmettre ce message, a-t-il répondu. Il en fut de même pour Jésus, alayhissalam, il en fut de même pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et nous avons constaté la même chose chez le Messie premier, alayhissalam. Toutes les nations s'étaient liguées contre lui. L'État aussi était contre le Messie promis d'Islam, quoique l'opposition de l'État avait diminué en intensité vers la fin de sa vie. Des nations tout entières, les suivants de toutes les religions, les mollahs et les prétendus héritiers des saints Tous s'étaient ligués contre le Messie promis des salam. Les masses populaires ainsi que les riches et les élites étaient aussi ses ennemis. En somme, il était au centre d'une tempête d'opposition. Certains ont tenté de ramener le Messie promis des salam à la raison. Se posant pour amis d'aucun, lui ont demandé de diluer un tant soit peu ses proclamations. Certains lui ont conseillé que s'il laissait tomber tel ou tel aspect de ses proclamations, tout le monde se joindrait à sa jamaat. Or, le Messie promis l'Islam ne s'est soucié de personne et n'a cessé d'annoncer ses proclamations. Ceci a soulevé un tollé, d'aucuns ont été tabassés, d'autres ont été tués, en dépit de toutes ces souffrances qui perdurent jusqu'à présent, en dépit du fait qu'ils n'avaient point en apparence la force pour se défendre contre un monde disposant de grands moyens. Il n'a pas cessé son combat. Le Messie promis l'Islam, Hadrat Muslimo déclare, le Messie promis l'Islam avait relaté à maintes reprises que le prophète est à l'exemple de cette vieille femme que l'on disait un peu folle et que les enfants du village aimaient taquiner lorsqu'elle sortait de chez elle. Ses enfants se moquaient d'elle, ses enfants la tourmentaient. Et la vieille, quant à elle, les insultait et les maudissait. Un jour, les villageois ont tenu conseil et ont conclu que cette vieille femme est persécutée et elle est tourmentée sans raison par les jeunes du village. Toute persécutée, elle maudit ses enfants. Attention que ses malédictions soient exaucées. D'où la nécessité de mettre fin aux méchancetés des jeunes afin qu'ils ne la tourmentent pas, afin qu'elle ne les maudisse pas. Après ce conseil, ils ont décidé d'enfermer leurs enfants à la maison le lendemain. Et le lendemain, tous les parents ont dit à leur fils qu'il ne pourrait pas sortir. Et par précaution, les parents ont aussi enchaîné leur porte principale. La folle est sortie le matin venant et elle a parcouru les rues à droite et à gauche, mais n'a pas rencontré un seul jeune. Naguère, un tel lui tirait les vêtements, un autre l'a pincé, un autre l'a poussé, un autre était cramponné à sa main ou un autre était en train de se moquer d'elle. Mais ce jour-là, elle n'a vu personne. Elle a attendu jusqu'à l'après-midi. Ne voyant aucun garçon sortant de sa maison, elle est partie dans les épiceries et a demandé. Elle a demandé, « Votre maison s'est-elle effondrée aujourd'hui ? Votre enfant est-il mort ? Que se passe-t-il ? Je ne vois personne. » Quand elle a répété ces questions chez chaque épicier, ils se sont dit que si la folle les insultera, quelles que soient leurs actions, eh bien, laissez sortir les enfants. Le Messie promis l'Islam disait que l'état du prophète ressemble de près à cette folle. Le monde se moque de lui, le tourmente, le persécute. Le monde le tourmente tant qu'il rend sa vie difficile. D'aucuns se disent que cette persécution doit cesser. Mais le prophète aussi ne peut abandonner le monde. Et quand le monde ne tourmente pas le prophète, eh bien, le prophète le secoue, le réveille, afin que le monde se tourne de nouveau vers lui, afin que le monde l'écoute d'une manière ou d'une autre. Ainsi, grâce à cette opposition, des gens de bonne nature se manifestent. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu relate, Molvi Mohammad Hussein Batalvi était un ami de jeunesse du Messie promis l'Islam. Il était en contact avec ce dernier et il louait ses articles. Après qu'il s'était proclamé Messie promis, Molvi Hussein Batalvi a déclaré « Moi, j'ai fait sa renommée et à présent, je vais le détruire. » Qui aurait pu imaginer qu'un notable aussi influent que Molvi Mohammad Hussein n'aurait pas pu anéantir la personne qu'il souhaitait détruire? Il était certainement puissant et il pouvait mettre à exécution ses menaces. D'ailleurs, certains parents du Messie promis l'Islam avaient annoncé dans les journaux que le Messie promet l'Islam avait en fait lancé un commerce en fondant cette communauté. Personne ne devait s'intéresser de sa personne. Et ils ont tenté d'effaroucher le monde entier. Je me souviens aussi que nombre de domestiques, appelés kamis, dans les sociétés campagnardes, refusaient d'entreprendre les travaux de la maison du Messie Premier Islam. Ces domestiques refusaient de travailler dans la maison du Messie Premier Islam. Et c'était d'ailleurs deux parents qui les empêchaient de le faire, a déclaré Hadrat Muslim Maoud. Ainsi, les proches du Messie promis et les étrangers ont tenté de le détruire. Mais aujourd'hui, son nom résonne dans 212 pays dans le monde entier. Peut-on présenter d'autres signes de sa véridicité? Hadrat Muslim Maoud présente un autre signe de la véracité du Messie promis al-Islam. Il déclare « Dieu a fait naître le Messie promis al-Islam en nous. Sa personne est pour nous un signe évident. Celui qui s'est assis en sa compagnie a vu les signes de la véracité du Coran et du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Et rien ne pourra l'éloigner de l'islam. » Un juge hindou fut chargé du procès intenté par Karamdin Bin à l'encontre du Messie promis. Les hindous de l'arrière-samaj lui avaient demandé de le condamner coûte que coûte et le juge avait fait cette promesse de le faire. Tout inquiet, Khaja Kamaluddin est venu voir le Messie promis al-Islam qui se trouvait à Gurdaspur pour le procès. Khaja Kamaluddin a déclaré « La situation est très inquiétante. Le juge a promis aux Aryas, aux hindous, de vous punir. » Le Messie Premier Islam, qui était allongé, s'est redressé. Et il a déclaré « Khaja Saheb, qui peut poser la main sur le lion de Dieu? Je suis le lion d'Allah. Ils n'ont qu'à poser la main sur moi pour voir. » Et il en fut ainsi. Le Messie Premier Islam devait se présenter devant deux juges. Le Messie Premier Islam devait se présenter devant deux juges et tous les deux ont eu une sévère punition. Le premier fut destitué et le fils du deuxième s'est noyé. Son père était devenu presque fou en raison de la tristesse causée par sa mort. Cet incident a eu un tel effet sur le père, dit le deuxième calife, qu'un jour, à la gare de Ludhiana en partance pour Delhi, ce juge m'a demandé en toute humilité de prier pour qu'Allah lui accorde de la patience, car il avait commis de grandes fautes. J'ai peur d'être frappé par la folie, a dit le juge. Priez pour qu'Allah protège mon deuxième fils et qu'Allah me protège moi-même de la destruction en raison de mes méchancetés à l'encontre de la personne du Messie Premier Islam. C'est ainsi que la parole du Messie Premier Islam s'est accomplie, à savoir qui pourra poser la main sur le lion d'Allah. Et les hindous aryasamajistes ont échoué dans leur complot. Hadrat Muslim Maoud radhiyallahu anhu relate un incident intéressant concernant un certain Nizamuddin, qui était l'ami commun du Messie Premier Islam et de Mohammad Hussein Batalvi. Le dit Nizamuddin avait accompli le Hajj à cette reprise et il était de tempérament jovial. Grande fut sa peine quand Maulvi Mohammad Hussein Batalvi qualifia dans une fatwa le Messie Premier Islam de kafir, après que ce dernier s'était proclamé envoyé de Dieu, car il était convaincu de la piété du Messie Premier Islam. Il résidait à Ludhiana et il blâmait tous ceux qui conspuaient le Messie Premier Islam en leur répétant sans cesse « Allez étudier de près la personnalité du Misa Saheb. Il est d'une grande piété. J'ai vécu en sa compagnie. » Quand on lui explique un fait à la lumière du Saint-Coran, il l'accepte sur le champ. Il n'est point un fourbe. Si on lui explique le Coran à l'appui que ses prétentions sont fausses, eh bien, je suis certain qu'il l'admettra. Et il s'est disputé avec les gens et il disait que si je pars à Qadian, eh bien, je suis convaincu qu'il se repentira. Quand je lui présenterai des versets qui prouvent que Jésus est monté au ciel en chair et en os, eh bien, il les acceptera sur le champ et ne dira pas un mot en entendant le Coran. Un jour, il est parti pour Qadian. Et dès son arrivée, il a rencontré le Messie premier l'Islam. Et il lui a demandé, « Avez-vous abandonné l'Islam? Avez-vous rejeté le Coran ?»« Comment cela? Je crois dans le Saint-Coran. L'Islam est ma religion », a répliqué le Messie premier l'Islam. Alhamdulillah, je n'ai cessé de répéter aux autres que vous ne pouvez abandonner le Coran, dit Nizamuddin. Si je vous montre des centaines de versets qui prouvent la montée physique au ciel de Jésus-Christ, seriez-vous prêt à les accepter? Le Messie premier l'Islam a répondu, « Pourquoi parler de centaines de versets? Montrez-moi un seul et je l'accepterai sur le champ. » Alhamdulillah, a dit Nizamuddin, je disais aux autres qu'il n'est point difficile de vous convaincre. Les gens font beaucoup de bruit pour rien. Si je vous montre une centaine de versets prouvant que Jésus est toujours en vie, est-ce que vous allez les accepter? Le Messie premier l'Islam a répondu, « Je viens de vous dire à l'instant que si vous me montrez un seul verset, je l'accepterai tout de suite. » Respecter 100 versets du Coran revient à respecter un seul verset du Coran. Il n'est point question ici de 100 ou d'un seul verset. « Ne parlons plus de 100, » a dit Nizamuddin. « Si je vous présente 50, est-ce que vous allez promettre d'abandonner votre déclaration ?» Le Messie promet l'Islam a répliqué, « Présentez-moi un seul verset et je vais l'accepter. » En voyant la détermination du Messie promet l'Islam, eh bien, le doute s'est insinué dans l'esprit de Nizamuddin et il s'est dit qu'il n'y avait peut-être pas autant de versets pour soutenir sa thèse. Je vais vous présenter 10 versets en ce cas, a-t-il déclaré. Le Messie premier l'Islam a poursuivi en riant que ma position est la même. Montrez-moi un seul verset. Je vous laisse et je retourne après quelques jours avec ces versets, a dit Nizamuddin. Durant ces jours, Maulvi Mohammad Hussein et le premier calife de la Jamaat se trouvaient à Lahore. Par écrit, il fixait les conditions pour un débat entre le Messie premier l'Islam et Mohammad Hussein, débat qui avait pour thème la mort de Jésus. Mohammad Hussein arguait qu'étant donné que les hadiths sont l'exégèse du Coran, eh bien toute déclaration des hadiths doit être considérée comme un énoncé du Saint-Coran. D'où la raison de débattre de cette question de la mort et de la vie de Jésus à la lumière des hadiths. Le premier calife répliquait qu'étant donné que le Coran avait prééminence sur les hadiths, eh bien, toute thèse doit être soutenue par des énoncés coraniques. En fin de compte, le premier calife accepta nombre de conditions qu'imposait Mohammad Hussein dans le but d'abréger ses discussions préliminaires et afin que les débats aient finalement lieu. Mohammad Hussein Batalvi était très satisfait qu'on s'était plié à ces conditions. Nizamuddin arriva à Lahore durant ces jours. Il a déclaré, « Mettez fin à toutes ces polémiques, je viens de rencontrer Mirza Saheb et il est prêt à renoncer à ses prétentions. » Voilà ce qu'il a dit à Mohammad Hussein Batalvi. « Étant donné que je suis votre ami, aussi bien que l'ami de Mirza Saheb, ces querelles me peinent beaucoup. Mirza Saheb est un homme pieux et il m'a promis d'accepter que Jésus est vivant au ciel si on lui présente 10 versets du Coran qui prouvent que Jésus-Christ est monté au ciel. » Et il a dit à l'endroit de Maulvi Mohammad Hussein, « Montrez-moi ces 10 versets. » Mohammad Hussein Batalvi était irascible et il s'emportait pour un rien. « Imbécile, a-t-il crié, tu as réduit à néant tous mes efforts. Voilà 2 mois que je tente de les amener vers les hadiths et toi, tu les as poussés de nouveau vers le Coran. Vous n'avez même pas 10 versets pour soutenir votre théorie, a demandé Nizamuddin. Mohammad Hussein a répliqué, tu es un ignore, tu ne sais même pas ce qu'est le Coran. » Mia Nizamuddin, en entendant cela, a répliqué, « Eh bien, en ce cas, je me rallie au Saint-Coran. » Et sur ce, il est parti à Qadian et il a prêté allégeance au Messie premier l'Islam. Le deuxième calife de la communauté déclare, « Voyez la confiance qu'avait le Messie Premier Islam dans le Coran. Il annonçait sûr de lui que le Coran ne pouvait le contredire. Cela ne veut point dire que le Coran a un lien particulier avec le Messie Premier Islam ou avec la Jamaat Ahmadiyya. Le Coran montrera la voie de la vérité et soutiendra celui qui suit cette voie. Le Messie Premier Islam était certain de sa véridicité, c'est pour cette raison que le Coran le soutenait. C'est aussi la raison pour laquelle le Messie Premier Islam disait qu'il jettera à la poubelle toute déclaration de sa part qui ne sera pas conforme au Saint-Coran. Cela ne signifie guère que le Messie Premier Islam avait des doutes quant à sa déclaration. Il avait tout simplement la certitude que le Coran témoignera en sa faveur. Et c'est cet espoir qui lui a fait remporter du succès dans le monde. Aujourd'hui, c'est par ce moyen que nous aurons du succès et que nous pourrons transmettre le message du Messie Premier Islam. Certainement, le Saint-Coran est avec nous. Le Messie Premier Islam déclare : Sachez que la promesse de Dieu est vraie. Conformément à sa promesse, il a envoyé un avertisseur au monde. Mais le monde ne l'a pas accepté. Dieu, cependant, l'a accepté et va établir sa véridicité par de terribles assauts. Je vous dis en toute vérité qu'Allah m'a envoyé en tant que Messie promis, en accord avec ses promesses, à vous de m'accepter ou de me rejeter. Or, votre rejet ne sera sans effet. Le décret de Dieu va s'accomplir. Car dans mon livre, Ibrahim Ahmadiyya est consigné cette révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Sadaqallahu wa rasulahu wa kana wa'dan maf'oula. C'est-à-dire, la parole d'Allah et de son prophète s'est accomplie et l'ordre de Dieu sera respecté. Je souhaite à présent dire quelques mots au sujet de l'attentat qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande vendredi dernier. Je voulais déjà en faire mention lors du dernier sermon, mais j'ai oublié de le faire. Mais suite à cet événement, j'ai publié un communiqué de presse de la part de la communauté où j'ai condamné cette attaque. De nombreux innocents et des enfants ont été tués en raison de leur religion et en raison de leur origine. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde à leur égard et qu'il permette à leurs proches de faire preuve de patience. Depuis, il y a eu de nouvelles actualités à cet égard. Et de ce fait, finalement, c'était mieux de ne pas en avoir fait mention auparavant. La façon dont le gouvernement néo-zélandais, en particulier le Premier ministre, a fait preuve de grande qualité morale et la façon dont l'État a pris ses responsabilités, tout cela est exemplaire. Si seulement les États musulmans pouvaient s'en inspirer et jouer leur rôle pour mettre fin à la haine religieuse. La population néo-zélandaise a également montré tout son support. J'ai appris qu'aujourd'hui, en ce jour du vendredi, une annonce a été faite à la radio et à la télé qu'en solidarité avec les musulmans, les appels à la prière seront diffusés à la télévision et sur la radio. De plus, en guise de solidarité, les femmes non-musulmanes et les femmes chrétiennes ont annoncé qu'elles allaient porter le voile. Qu'Allah accepte leur action pieuse et qu'Allah leur permette de reconnaître la vérité. De nombreux musulmans qui se trouvaient dans ces mosquées sont tombés en martyrs. L'interview d'une femme a été diffusée à la télévision au cours de laquelle elle faisait preuve d'une grande patience. Son mari et son jeune fils de 21 ans ont été assassinés par cet infâme meurtrier. Son mari et son fils étaient en train d'aider les autres victimes lorsqu'ils ont été tués. Et ils ont en tout cas accompli une action pieuse. Et ils ont offert leur vie pour une noble cause, qu'Allah fasse preuve de miséricorde à leur égard. Il s'agit d'un événement très tragique et les musulmans locaux ont fait preuve d'une grande patience. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend de la part d'un véritable musulman. Mais certains groupes extrémistes ont annoncé qu'ils allaient se venger. C'est là une réaction très grave. Cela engendrera davantage de l'inimitié qu'Allah anéantisse ces groupes extrémistes qui se trouvent au sein de l'islam et que l'on puisse diffuser le message véritable de l'islam et qu'Allah permette à la grande majorité des musulmans, même à tous les musulmans, d'accepter l'imam de l'époque afin qu'en s'unissant, ils puissent propager les véritables et sublimes enseignements de l'islam. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi, afin que nous puissions présenter au monde les véritables et beaux enseignements de l'islam. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires de quelques personnes. La première sera celle de Maulana Khurshid Ahmad Anwar Saheb. Il était le Wakilul Mal du Tehrik-e-Jadid à Qadian. Il est décédé le 19 mars dernier, à l'âge de 73 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, il faisait partie du système de Wasiya et il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer. Mais il a fait face à cette maladie et l'a supportée avec beaucoup de patience et de courage. En dépit du fait qu'il était très malade et très faible, il n'a jamais manqué à ses responsabilités. Il se rendait régulièrement à son bureau. Il a rempli son waqf à merveille et au mieux de ses aptitudes, et ce, jusqu'à son dernier souffle. Et je considère qu'il a fait à la hauteur de ce qui était attendu de sa part. Le défunt était le fils d'Abdul Azim Saheb Darwish de Qadian et de Madame Raïssa Begum Saheba. Il était originaire de Pindi Batian. Son père était le premier à accepter l'Ahmadiyya au sein de sa famille. Après la baïra du père du défunt, celui-ci a été tourmenté par son père, c'est-à-dire par le grand-père du défunt. Le grand-père du défunt avait tabassé son père et c'est ainsi que le père du défunt a émigré à Qadian. Au cours de son enfance, le défunt a baigné dans l'atmosphère de Qadian en compagnie de grands compagnons et des derviches de Qadian. Il a obtenu son brevet à l'école Talim Islam de Qadian et ensuite il s'est inscrit à la Madrasa Ahmadiyya. En 1967, il a réussi l'examen de Maulvi Fazil à la Madrasa Ahmadiyya de Qadian et il a commencé à enseigner dans cette institution pour sa première affectation. En 82, il a été nommé directeur du magazine Badr. Et quelques temps plus tard, il a servi en tant qu'éditeur de ce journal. En 89, il a servi en tant que Nazim Irshad Waqf-e-Jadid. Il a servi en tant que Naib Nazir Irshad, président de la Khuddam al-Ahmadiyya. En 2006, je l'avais nommé comme Wakilul Mal du Tehrik-e-Jadid et il a servi à ce poste de manière exemplaire jusqu'à son décès. Il était également président et membre de comités centraux importants. Le défunt était un fin administrateur. Il remplissait ses responsabilités à merveille, en bonne humeur et avec fidélité. Il a maintenu le rang de l'Inde en ce qui concerne la récolte du Tehrik-e-Jadid et il a grandement œuvré dans cette voie. L'Inde était loin dans le classement, mais par la grâce de Dieu, le défunt a permis à l'Inde de revenir au premier plan en ce qui concerne les sacrifices financiers dans ces domaines. Il avait une grande considération pour les fonds de la communauté et il dépensait ses biens avec parcimonie. Il avait aussi une grande connaissance et ses articles étaient de grande qualité. Durant de nombreuses années, il a servi la rédaction du magazine Badr de Qadian. Ses articles étaient emplis de connaissances religieuses et prouvaient aussi sa maîtrise de la langue ourdou. À Hyderabad, il y avait une organisation nommée Tamir Millat qui organisait des compétitions au sujet de la vie du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Le défunt avait écrit un article dans ce cadre et avait gagné le premier prix. Ce fait date de 40 ans, à l'époque où il était jeune. Le défunt possédait de grandes qualités, il était convivial, possédait un grand sens de l'hospitalité et il était un travailleur infatigable. C'était là ses qualités principales. Il accueillait avec enthousiasme les invités de la Jalsa Salana. Malgré ses faibles revenus, il s'occupait de ses invités avec générosité. Il était un bon conseiller, aidait les pauvres et il était obéissant envers ses supérieurs. Il était très attaché au califat. Il a servi la communauté pendant 52 ans. le défunt a laissé derrière lui 4 filles et 1 fils. Une de ses filles réside aux États-Unis et une autre réside à Kadiane. Son beau-fils Khalid Ahmad Aladdin a écrit ceci. Durant les jours de sa maladie, à chaque fois que je lui demandais de se reposer, le défunt répondait « Mon souhait est de servir jusqu'à mon dernier souffle, et ensuite de me présenter devant Allah. » Et il a respecté ce serment. Son adjoint au sein du Tahrik-e-Jadid a déclaré que nous nous sommes connus alors que nous étions étudiants et j'ai eu l'occasion de travailler avec le défunt pendant plusieurs années. Lorsqu'il a été nommé Naïb Nazir Baitul Mal, eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant une longue période. Le défunt travaillait avec une grande diligence. Il faisait preuve d'une grande obéissance. Il était un travailleur infatigable et honnête. Il analysait les finances avec une grande attention. Il était responsable du budget du plan Tahrik-e-Jadid en tant que Wakilul Mal. Et ce chiffre a augmenté par des centaines de millions par la grâce de Dieu. Qu'Allah exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses actes de piété. La deuxième prière funéraire sera celle de Tahir Hussein Munshi Sahib, qui était l'amir adjoint des îles Fidji. Il est décédé le 5 mars dernier à l'âge de 72 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il était un ancien serviteur de la Jamaat de Fidji. Il a eu l'opportunité de servir la Jamaat en tant qu'amir adjoint. Il était quelqu'un de pieux et il priait beaucoup. Il était sincère et fidèle. Il était un moussi et il avait réglé la somme correspondant à sa hissa jaydad au cours de son vivant. Il laisse derrière lui un fils et une fille qui ne sont pas Ahmadis. Par la grâce de Dieu, il avait un grand renom dans le département de l'éducation aux îles Fidji. Il était le principal d'un collège, il a servi au ministère de l'Éducation en tant qu'officier principal et il a été promu par la suite au poste d'adjoint au directeur de l'Éducation. Il a pris sa retraite à ce poste en 1999. L'État l'a employé de nouveau par la suite et il était employé dans le comité de la comptabilité publique où il a servi pendant plusieurs années. Par la suite, il a quitté ce poste lorsqu'il est tombé malade. Hamid Hussein Saeb, le président de la Jamaat de Nasser Banga, déclare concernant le défunt que la première affectation de Munshib Saeb était à l'école primaire de Nasser Banga. J'étais le secrétaire de l'école et nous sommes devenus amis. Malgré le fait qu'il était opposé contre la Jamaat, il écoutait le message de l'Ahmadiyya et il débattait à ce sujet. Il était un sunnite, et lorsqu'il invitait ses imams à débattre, eh bien, il refusait, et cela ne le plaisait guère. Par la suite, Allah a répandu sa grâce sur lui, et il a pu embrasser l'Ahmadiyya, et il a accepté l'imam de l'époque. Hamid Hussein ajoute, « Un jour, Munshi Saeb est revenu de Kadiane, et il m'a informé qu'il avait beaucoup prié pour moi. Il m'a dit, « J'ai beaucoup prié pour vous dans la bête de doigts, car Allah, l'exalté, m'a conféré ce statut par votre intermédiaire. » Il a eu l'opportunité d'accepter l'Ahmadiyya par son intermédiaire et lorsqu'il a visité Baitul Dua, il a prié pour lui en disant qu'il lui avait rendu un grand service en le présentant le message de l'Ahmadiyya. Seul un Ahmadi peut avoir l'idée de faire pareille supplication pour celui qui a rendu un service. Le quatrième calife l'avait nommé comme amir adjoint des îles Fidji. Le missionnaire Naïm Iqbal Saab écrit ceci. Le défunt était une personne très fidèle et avait une relation d'une grande fidélité avec le califat. Il enjoignait également les autres à respecter le califat et il faisait preuve d'obéissance envers le califat. Il était lui-même exemplaire en cela. Lorsqu'il avait un désaccord sur un point, mais qu'il apprenait par la suite que le calife avait statué différemment, eh bien, il changeait aussitôt son point de vue. La troisième prière funéraire sera celle de M. Moussa Sikasso Saheb, qui habitait au Mali. Il est décédé le 15 février dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Il était un brigadier de l'armée. Il a appris au sujet de l'Ahmadiyya à travers un magazine de la Jamaat. Et par la suite, il était très souvent en contact avec le missionnaire de la région de Sikasso. En novembre 2012, il a accepté l'Ahmadiyya en 2013, lors du lancement de la radio Ahmadiyya dans la ville de Sikasso. Il a été nommé le directeur et il a également été nommé président de la Jamaat. Après le lancement de la station radio, il a fait face à une vague d'opposition dans la région et il a fait preuve d'une grande sagesse, d'une grande patience et il a pu trouver des solutions à tout problème. Il a contacté les autorités concernées, leur a présenté le message de la Jamaat et en 2016, il servait dans l'AMLA nationale en tant que secrétaire des affaires publiques. Après la Bayra, il s'est dédié pour servir la Jamaat. Il était régulier dans les prières en congrégation et dans la prière Tahajjud. C'était quelqu'un de sincère et de fidèle. Il avait un grand amour pour le califat et répondait à tout appel du calife. Il laisse derrière lui 2 épouses, 10 filles et 5 fils. Qu'Allah exalte son rang et qu'il permette également à ses enfants de faire preuve de piété. Et qu'il permette aussi aux enfants de Munshi Saheb, qui ne sont pas Ahmadi, de reconnaître l'imam de l'époque.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر